بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، رضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، donc la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est notre quatrième assise dans l'étude de Umdat al-Ahkam avec l'explication de Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh. Et nous sommes dans, toujours dans le chapitre, dans le livre de la purification. Et ce livre est composé par un certain nombre de chapitres. Et maintenant nous allons passer au chapitre des bienséances avant de faire ses besoins et lors de la purification. Car les hommes de science, rahmatullah alayhim, divisent leur recueil en livres, et les livres en chapitres appelés bab. Le bab ici, on est dans le livre de la purification, donc Umdat al-Ahkam, dans lequel il y a un certain nombre de bab, comme j'ai dit, c'est-à-dire un certain nombre de chapitres. Le bab, c'est la porte en arabe. Mais il désigne en langue, donc l'entrée d'une chose. Et dans la terminologie, dans le langage des hommes de science, ils désignent un nom annonçant le sujet qui va être traité. Ici, en l'occurrence, Bab, Dukhul, Khala, Wal Istitaba. Chapitre des bienséances avant de faire ses besoins et l'heure de la purification. Qala Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayh, Al-Khala bil-Mad, Al-Makan Al-Khali. والمراد هنا المكان المعد لقضاء حاجته، البول أو الغائط، سمي به لأن مريد الحاجة يطلب المكان الخالي لقضائها. والاستطابة donc en langue arabe le terme الخلاء vient du terme espace vide, un endroit vide. Ce qui est voulu ici par الخلاء c'est l'endroit où la personne va effectuer ses besoins naturels. Et pour cela, pourquoi on l'appelle Khali, l'endroit vide? Parce que la personne va chercher loin des gens, un endroit où il n'y a personne pour pouvoir faire ses besoins. والاستطابة طلب الطيب والمراد بهنا تطهير القبول والدبر من أثر البول أو الغائط بالحجر أو ماء لأنه طيب المحل من الخبت الطارئ عليه. يقول رحمه الله الشريعة الإسلامية ولله الحمد كاملة في العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق فما من شيء ينفع الناس في ذلك إلا بينت أيضا وأيضا ما من شيء يضرهم إلا وحدثت منه. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أن المشركين قالوا له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو بعظم. شيخ العثيمين رحمة الله عليه قال لونجه الله cette législation musulmane est complète à tous les niveaux, au niveau des adorations, au niveau des transactions, au niveau du comportement. Et cette législation a donné les clarifications sur tout ce qui est bénéfique aux humains, hein, et il les a avertis contre toutes sources de mal. Dans l'authentique de Muslim, rahimahullah ta'ala, selon Salman al-Farisi, radiyallahu anhu arda, que les polythéistes lui ont dit, votre prophète vous a appris toutes choses, même comment faire vos besoins naturels. Il a dit avec fierté, radiyallahu anhu arda, certes, il nous a interdit de faire face à la Qibla en effectuant les besoins naturels, urine, excréments, etc. Et il nous a interdit de s'essuyer avec la droite, et il nous a interdit de s'essuyer avec moins de trois pierres, et il nous a interdit de le faire avec les os et les excréments d'animaux. قال الحافظ عبد الغني المقدسي الحديث الأول، أي الحديث الأول في كتاب دخول الخلاء والاستطابة، أما هو فالحديث الحادي عشر في كتاب طهارة. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Et donc, le premier hadith dans le chapitre de la bien, du comportement de faire ses besoins naturels. Mais sinon, c'est le 11e hadith dans le livre de la purification. Donc, le premier hadith concernant le fait de faire ses besoins naturels, Anas ibn Malik a dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait en entrant aux toilettes, là en allant dans l'endroit où il va faire ses besoins, « Oh Allah, je cherche ta protection contre les démons mâles et femelles. » Hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Rawi Anas ibn Malik ibn Nadr ou Hamza l'Ansar al-Khazraji radiyallahu anhu atat bihi ummuhu Umm Sulaym وله عشر سنين حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقالت يا رسول الله هذا أنس غلام يخدمك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس فرأيت اثنتين أي من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أرجو الثالثة أي دخول الجنة فلقد دفنت لصلبي سوى ولد وولدي 125 وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين. هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وبقي خادما للنبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين حتى توفي صلى الله عليه وسلم وقام بعده في المدينة ثم نزل البصرة ومات فيها 93 أي عمرا طويلا رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وارضاه. موضوع الحديث بيان ما يقال عند دخول الخلاء. Et donc le transmetteur du hadith c'est Anas ibn Malik ibn Nadr ou Hamza al-Ansar al-Khazraji. Sa mère Umm Sulaym, une femme bénite, une noble compagnon, Umm Sulaym radiyallahu anha l'a ramené au prophète alayhi salatu wassalam à l'âge de 10 ans quand le prophète est venu d'arriver à Médine. Il est rentré à Médine. Umm Sulaym a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ô messager d'Allah, c'est Anas, un petit garçon pour te servir. Le prophète l'a accepté, alayhi salatu wassalam, et lui a fait un dua. Il a dit, oh Allah, donne-lui beaucoup d'enfants, une grosse fortune, et fais-le rentrer au paradis. Anas disait, j'ai vu deux du dua du prophète, alayhi salatu wassalam, et j'attends la troisième, c'est-à-dire j'attends celle du paradis. Celle de ce bas monde, il les a vus devant lui. Et donc j'en ai vu deux, et j'attends la troisième. J'ai enterré 125 de mes enfants, de mes petits-enfants. Comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah donne lui beaucoup d'enfants. J'ai enterré 125 de mes enfants et de mes petits-enfants. Et ma terre donne ses fruits deux fois. La récolte de sa terre se fait deux fois. Anas est resté au service du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la mort du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire 10 ans, radiyallahu anhu warda. Et il est resté après lui à Médine, un laps de temps, et puis il a quitté Médine, il est parti vers le Basra en Irak, où il est mort au nom 93 de l'Hégire. Il a vécu plus de 100 ans, rahimahullah ta'ala, radiyallahu anhu warda. Le sujet du hadith, ce qu'il faut dire au moment de rentrer aux toilettes ou au moment d'aller faire ses besoins. شرح الكلمات يقول إذا دخل إذا دخل أراد الدخول وقرب منه قبل أن يدخل الخلاء المكان المعد لقضاء حاجة البول أو الغائط. اللهم أي يا الله، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم وعوض عنها الميم. أعوذ بك أعتصم بك، وهو خبر بمعنى الدعاء، فكأنه يقول اللهم أعذني. الخبث قال المؤلف بضم الباء جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين. الخبائث قال المؤلف رحمه الله تعالى جمع خبيثة، وهي إنات الشياطين، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناتهم. وقيل الخبث بإسكان الباء الشر، والخبائث الذوات الشريرة، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. أما الشرح الإجمالي فيقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: الأماكن المعدة لقضاء الحاجة أماكن خبيثة، فهي مأوى الشياطين، لأنهم خبث يألفون الخبيث. قال عز وجل: الخبيثون للخبيثات. فكان من المناسب أن يلجأ الإنسان إلى الله تعالى عند دخول الخلاء، فيسأله العصمة من الشياطين ذكرانهم وإناتهم، أو من الشر كله وأهله. وها هو أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول الخلاء يقول عند دخوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Et donc, le sens général du hadith dit: Cheikh, les endroits réservés aux besoins naturels sont des endroits impurs. C'est des lieux, des endroits, dire shayatin, car ils sont impurs. Shayatin sont impurs, ils aiment les endroits, ils aiment l'impureté et les endroits impurs. Comme il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset: les impurs mâles sont pour les impures femelles. C'est pour ça qu'il convient à l'être humain de se réfugier auprès d'Allah Azza wa Jal pour le protéger d'eux au moment où il rentre aux toilettes. Il demande à Allah de le protéger des mâles et des femelles des shayatin, ou de tout le mal et des adeptes du mal et de tous ceux qui font le mal. Anas rapporte du prophète alayhi salatu wasalam que quand celui-ci, c'est-à-dire le messager alayhi salatu wasalam, veut rentrer aux toilettes, il disait: oh Allah, protège-moi des mâles et des femelles des shayatin. فوائد الحديث: اولا استيعاب الشريعه الاسلاميه لجميع الاداب النافعه. ثانيا مشروعيه الدعاء عند دخول المكان المعد لقضاء الحاجه، يقول: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ثالثا ان جميع الخلق مفتقرون الى الله، الى الله تعالى في دفع ما يؤذيهم ويضرهم. Les leçons à retenir du hadith: la première leçon, la noblesse et la perfection de cette législation musulmane qui a enseigné tout ce qui est bénéfique. La deuxième leçon, la recommandation de faire ce dua au moment de rentrer dans les endroits préparés pour les besoins naturels. « Oh Allah, protège-moi des mâles, shayatin, des démons, mâles et femelles. » La troisième leçon, toutes les créatures ont besoin d'Allah pour les protéger et repousser tout ce qui va leur nuire ou leur faire du mal. الحديث الثاني عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. Donc le deuxième hadith dans le chapitre des besoins naturels, et c'est le douzième dans le livre de la purification. Le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu arda. Abi Ayyub a dit, le messager d'Allah a dit, quand vous allez effectuer vos besoins, ne vous dirigez pas en direction de la Qibla. Et ne lui tournez pas le dos non plus. Tournez-vous plutôt vers l'est ou l'ouest. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Abu Ayyub a dit, nous sommes allés à Sham, c'est-à-dire le nord de l'Arabie, tout ce qui constitue maintenant le Liban, la Palestine, la Syrie, etc., la Jordanie. Et nous y avons trouvé des toilettes orientées vers la Kaaba. Nous nous en divions, c'est-à-dire quand ils rentrent dans ces toilettes, ils se mettent, ils divient leur direction. Nous en divions lors de nos besoins et puis nous demandions pardon à Allah. Rawi al-Hadith, Abu Ayyub, Khalid ibn Zayd al-Ansari al-Najjari, radiyallahu anhu, shahid al-Aqaba, wa nazala alayhi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hina qadima al-Madina, hatta bana masjidahu wa buyutah, sallallahu alayhi wa sallam, wa akha baynahu, wa bayna Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu, majma'in, shahida ghazwata badrin, wa ma ba'daha, wa shahida al-Futuhat, ولازم الغزو فلم يتخلف عن غزوة إلا وهو في أخرى حتى توفي في غزوة القسطنطينية سنة 52. موضوع الحديث بيان حكم استقبال القبلة واستدبار حال قضاء الحاجة ببول أو غائط. Et donc le transmetteur du hadith c'est Abu Ayyub l'Ansari al-Najjari rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu wa ardah. Il était parmi ceux qui ont rencontré le messager alayhi salatu wasalam al-Aqaba, c'est-à-dire à la Mecque, avant la hijra. Mais c'est toute cette délégation des Ansar qui sont venus voir le prophète alayhi salatu wasalam pour conclure avec, pour qu'il immigre vers eux. Donc il était parmi ceux qui ont rencontré le Rasoul sallallahu alayhi wasalam lors de cette rencontre à l'Aqaba. Et quand le prophète est arrivé à Médine, il s'est installé dans la maison chez Abu Ayyub al-Ansari jusqu'au moment où il a construit sa mosquée et ses demeures. Salawat Rabbi wa salamu alayhi. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a fraternisé entre lui et Mus'ab ibn Umair, radwanullahi alayhi majma'in. Abu Ayyub a assisté à la bataille de Badr et les autres batailles qui l'ont suivi. Et il a vécu toutes les conquêtes presque qui ont été faites après le prophète alayhi sallam. Il a assisté au combat souvent, et s'il s'abstentait d'une bataille, il était présent à celle qui la suivait, radiyallahu anhu wa'adha, jusqu'à sa mort. Et il est mort lors de la bataille de Constantinople en l'an 52 de l'Hijr, radiyallahu anhu wa'adha. Le sujet du hadith, le statut de faire face ou donner le dos à la Qibla au moment des besoins naturels. شرح الكلمات قال الشيخ العتيمين أتيتم الغائط جئتم إليه لقضاء الحاجة والغائط هنا المكان المنخفض من الأرض كانوا يقصدونه قبل بناء المراحل لقضاء الحاجة فلا تستقبلوا القبلة أي لا تولوها وجوهكم والقبلة والكعبة أوجهتها بغائط المراد به هنا الخارج المستقذر من الدبر قال المؤلف كنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه قال لا تستدبروها لا تولوها ظهوركم شرقوا استقبلوا الشرق استقبلوا المشرق غربوا استقبلوا المغرب والخطاب فيها وفي قوله شرقوا لأهل المدينة ونحمهم ممن إذا ونحوهم ممن إذا شرق وغرب انحرف عن القبلة فقدمنا الشام قدمنا إليها بعد فتحها مراحل جمع مرحاض وهو المغتسل والمراد به هنا موضع التخلي نحو الكعبة أي جهة الكعبة فننحرف عنها نميل عن جهة المراحل التي هي نحو الكعبة نستغفر الله نطلب منه المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه ما الشرح الإجمالي فيقول رحمه الله الكعبة المعظمة بيت الله عز وجل
فلها مكانة عظمى في قلوب المسلمين ومنزلة عليا في الإسلام، ولهذا أوجب الله على المسلمين استقبالها في أكمل حالاتهم حالة الصلاة التي هي صلة بينهم وبينه سبحانه وتعالى، ونزهها أن تكون قبلة لهم حال بولهم أو غائطهم أو أن تكون خلفهم تعظيما لها واحتراما. وهذا هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أمته عن استقبال القبلة أو استدبارها حال البول أو الغائط، لما تنبنئ عنه هذه الصورة من نقص في تعظيمها. ثم يرشد عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن أشبههم إلى أن يتجهوا نحو المشرق أو المغرب لتكون القبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم. ويقول أبو أيوب إنهم قدموا الشام بعد فتحها فوجدوا فيها مراحد بنيت قبل أن تكون الشام بلدا إسلاميا واتجاهها نحو القبلة، فينحرفون عنها ويسألون المغفرة إما لأنهم لم يحولوها إلى ناحية غير القبلة أو لأن انحرافهم لا يحصل به تمام الانحراف عن القبلة لصعوبة ذلك، حيث كان اتجاه المراحد إليها أي إلى الكعبة. Et donc le sens général de ce hadith, la noble Kaaba, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il occupe une grande place dans les cœurs des musulmans. Il a une grande place dans l'islam. C'est pour ça qu'Allah a rendu obligatoire aux musulmans de s'orienter vers la Kaaba lors des moments les plus importants qui sont consacrés à accomplir les prières. Et la prière qui est une relation entre le soumis et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leur a recommandé pour honorer, révérer la Kaaba de ne pas lui faire face ou lui donner le dos en urinant ou en défécuant. Voici Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu arda qui nous annonce que le prophète a interdit à sa communauté de faire face ou donner le dos à la Kaaba, car ceci découle d'un manque de respect et de considération de la Kaaba. Et le prophète alayhi salatu salam a orienté les gens de Médine et ceux qui sont dans la direction de Médine de s'orienter au moment de leurs besoins vers l'est ou l'ouest pour que la Kaaba soit à leur droite ou à leur gauche et non pas en face d'eux ni derrière eux. Abu Ayyub al-Ansari a dit que quand ils sont allés à Sham au nord de l'Arabie après la conquête de Sham, ils ont trouvé des toilettes là-bas orienté vers la Qibla, vers le Kaaba, qui existait, ces toilettes existaient avant que Sham devienne un pays musulman. Et en utilisant ces toilettes, les compagnons d'Allah Alim dit Abu Ayyub, divier, c'est-à-dire divier un peu de la direction de la Qibla. Et en sortant des toilettes, ils demandaient le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, soit parce qu'ils n'ont pas changé la direction de ces toilettes vers une autre direction que la Qibla, soit que leur déviation au moment de faire les besoins, c'était pas une grande déviation. Ils n'arrivaient pas à bien dévier de la direction de la Qibla, parce que c'était difficile. Al-Fawaid al-Hadith, al-Nahyu, awalan, al-Nahyu an istiqbali al-Qiblatiya ou istidbariha, حال البول أو الغائط، والنهي للتحريم عند جمهور العلماء. ثانيا أن النهي عام في الفضاء والبنيان. ثالثا تعظيم الكعبة واحترامها. رابعا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما ذكر الممنوع أرشد إلى الجائز. خامسا أنه لا كراهة في استقبال الشمس أو القمر حول البول أو الغائط. Donc les leçons à retenir de ce hadith. La première leçon, l'interdiction de faire face ou de donner le dos à la Qibla pendant les besoins naturels. Et l'interdiction est formelle chez la grande majorité des hommes de science. Deuxièmement, l'interdiction concerne le plein air et quand on le fait à l'intérieur de la construction. que ce soit en plein air ou à l'intérieur d'une construction, d'un lieu qui est construit pour être des toilettes. Troisièmement, on retient de ce hadith la révérence de la Kaaba et son respect. Le respect dû à cette Kaaba et la révérence qui doit lui être due. Quatrième leçon, la bonne méthodologie de l'enseignement du prophète alayhi salam. Il a cité ce qui est interdit et il a orienté vers ce qui est autorisé. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. La sixième leçon, il n'y a aucune interdiction concernant le fait de faire face à la lune, au soleil, au moment de faire ses besoins naturels. الحديث الثالث في هذا الباب وهو الثالث عشر في كتاب الطهارة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وفي رواية مستقبلا بيت المقدس. Et donc le troisième hadith dans ce chapitre qui est le 13e hadith dans le livre de la purification, Abdullah ibn Omar, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous, rapporte et dit: un jour, je suis monté sur le toit de la maison de ma sœur Hafsa, et j'ai aperçu le prophète en train d'effectuer ses besoins naturels, faisant face à Sham, c'est-à-dire, sa face était vers Sham, et donnant le dos à la Kaaba. Dans une autre version, il faisait face à la mosquée de Jérusalem. Le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Rawi, Abdullah ibn Omar, ibn al-Khattab, ibn Nufayl, al-Qurashi, al-Adawi, radiyallahu anhu, aslama ma'aha abihi Omar, wa hajara ila al-Madina, wa lam yashhad ghazwata Badrin wa Uhud, li sighari sinnih, wa ajazahu al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati al-Khandaq. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح وشهد له أقرانه بالفضل والورع. قال مالك رحمه الله: بقي ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يقدم عليه وفود الناس، يعني لتلقي العلم، وكان رضي الله عنه شديد التحري والاحتياط في فتواه، وكل ما يفعله بنفسه. توفي في مكة سنة 73 للهجرة. وموضوع الحديث بيان استدبار الكعبة في البنيان حال قضاء الحاجة. Et donc le transmetteur du hadith ici, c'est Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab ibn Nufayl al-Qurashi al-Adawi, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Il est rentré dans l'islam avec son père Omar et il a fait la hijra vers Médine. Et il n'a pas assisté ni à la bataille de Badr, ni à la bataille de Uhud, radiyallahu anhu arda. Il était petit à ce moment-là. Le messager, alayhi salam, l'a autorisé à assister à la bataille de Khandaq, celle des tranchées. Le messager, alayhi salam, a attesté de la vertuosité d'Abdullah ibn Omar. Ceux de chaque génération, lui reconnaissent les mérites, lui reconnaissent à Abdullah ibn Omar beaucoup de mérites, et reconnaissent aussi son wara, le fait de les délaisser ce qui est autorisé pour ne pas tomber dans ce qui est pas autorisé, le wara. Malik a dit d'Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Omar a vécu 60 ans après le prophète alayhi salatu wasalam. Durant toutes ces années-là, les gens et les délégations venaient le voir de différentes régions, venaient le voir pour apprendre la science. Il faisait très attention dans ses verdicts, dans ses fatawa, rahimahullah wa radiyallahu anha. Il prenait beaucoup de précautions, même dans ce qu'il faisait pour lui-même. Il est mort à la Mecque au long 73 de l'Hijr. Le sujet du hadith, le statut de donner le dos à la Kaaba dans la construction au moment d'effectuer les besoins naturels. Sharh al-Kalimat. يقول الشيخ المعتيمي رحمه الله: رقيت بفتح الراء وكسر القاف صعدت يوما أي في يوم من الأيام بيت حفصة دارها التي أسكنها فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وحفصة بنت عمر شقيقة عبد الله، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 من الهجرة بعد موت زوجها من جراحة أصيب بها يوم أحد، فهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنه وأرضاها، وكانت ذات رأي وفضل، ولاها عمر رضي الله عنه على وقفه في خيبر. توفيت في جماد الأولى سنة 71. رأيت أبصرت يقضي حاجته يبول أو يتغوط كناية، يبول أو يتغوط كنا عنهما تأدبا مستقبل الشام موليها وجهه، والشام في ناحية الشمال لأهل المدينة، مستدبر الكعبة موليها ظهره، والكعبة في ناحية الجنوب لأهل المدينة. بيت المقدس هو المسجد الأقصى بفلسطين، يقال بيت المقدس بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال، ويقال أيضا البيت المقدس أي بيت التطهير أو البيت المطهر. الشرح الإجمالي للحديث، يخبر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد ذات يوم على بيت أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته وجهه إلى بيت المقدس وظهره إلى الكعبة، وكان ابن عمر رضي الله عنه قال ذلك ردا على من قالوا إنه لا يستقبل بيت المقدس حال قضاء حاجته. ومن ثم أتى المؤلف بالرواية الثانية مستقبلا بيت المقدس. إذنك حز حفصة كي ستة دون سحاديت دون الكونتكست دون سحاديت سنكو لسر دو عبد الله بن عمر لفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. Le prophète alayhi salam s'est marié avec elle la troisième année de l'Hégire après la mort de son mari par des blessures lors de la bataille de Uhud. C'est l'une des mères des croyants. C'est une femme qui avait des bonnes opinions et qui avait une bonne vision des situations, et il avait beaucoup de vertus radiyallahu anhu wa ardaha. Omar radiyallahu anhu wa ardaha lui a donné la responsabilité de s'occuper de son waqf. Le waqf, c'est quoi? Quelqu'un dit cette maison, il est à moi. Mais cette maison, son argent, tout ce qui va rentrer de cette maison, là, de ce commerce, il sera pour la mosquée, ou là, il sera pour les orphelins de tel pays, ou là, il sera pour ceci ou pour cela. Ça, c'est le waqf. Hein? Et donc, le waqf de Khaybar, de Omar ibn Khattab qui était à Khaybar, celle qui s'occupait de le gérer, c'était Hafsa radiallahu anha wa ardaha. Pour cette, pour la force de ses opinions et pour la force de sa virtuosité, radiyallahu anha wa ardaha. Il est mort le mois de Jumada 1er, en an 41 de l'Hégire. Le sens général du hadith, Abdullah ibn Omar a annoncé qu'un jour il est monté sur le toit de la maison de sa sœur Hafsa, radiyallahu anhu majma'in, la mère des croyants, et il a aperçu le messager effectuant ses besoins naturels faisant face à la mosquée de Jérusalem et donnant le dos à la Kaaba. Ibn Omar a dit ceci pour répliquer à ceux qui disaient qu'on ne doit pas faire face à la mosquée de Jérusalem au moment de faire les besoins naturels. À cause de ça, l'auteur Al-Hafid Abdel Ghani a ramené la deuxième version où il est cité, faisant face à la mosquée de Jérusalem. Et les leçons à retenir de ce hadith, fawaid al-hadith, jawaz al-su'ud ala bayt al-qarib wa nahwi idha lam yu'lam 'adam ridahu bidhalik. Thaniyan al-kinayah 'amma yustahya min dhikri bi lafdh akhar. Thalithan jawaz istidbar al-qiblati hal qada' al-haja fi al-bunyan. رابعا جواز استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة. اختلاف وجمع سبق في حديث أبي أيوب رضي الله عنه مجمعين أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة عام في الفضاء والبنيان. وحديث ابن عمر هذا يدل على جواز استدبارها في البنيان، فعليه يكون مخصصا لعموم حديث أبي أيوب. حديث أبو أيوب عام، وهذا مخصص لهذا العموم. ويجوز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان لأنه أتى التخصيص. Donc les leçons à retenir du hadith. La première des leçons, il est permis de monter sur le toit de la maison d'un proche ou autre si on sait que ça ne le dérange pas. Deuxième leçon, on cite les choses duquel on a honte par un autre nom, comme l'urine ou la, les besoins, hein, ou l'extrême occident, on dit les besoins naturels, ainsi que feu, comme il a été cité, c'est un comportement adopté, comme il est dans le hadith rapporté ici, et comment les compagnons, ils utilisaient ces noms pour ne pas citer toute chose de laquelle, hein, on n'a pas honte et qui n'est pas bonne, etc. La troisième leçon, la permission de faire de donner le dos à la Qibla quand on effectue les besoins naturels dans la construction. C'est-à-dire que tu es dans une construction d'une toilette construite. Là, dans cet avis-là, hein, il est permis dans cet avis-là. La quatrième leçon, la permission de faire face à la mosquée de Jérusalem quand on est fait, hein, il est permis de s'orienter vers la mosquée de Jérusalem, il n'est pas interdit quand on fait ses besoins naturels. Une divergence de texte et la conciliation de ces deux textes. Dans le hadith Abu Ayyub radiallahu anhu arda, il est cité l'interdiction de faire face et de donner le dos au moment de faire ses besoins naturels à la Qibla. Il ne faut pas lui donner ni le dos ni lui faire face. Hein? Que ce soit en plein air ou que ce soit en construction. Le hadith d'Ibn Omar prouve la permission de lui donner le dos dans la construction. Donc le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari est un hadith général. Le hadith d'Abdullah ibn Omar est un hadith spécifique qui est venu donner une certaine spécificité au sens général du hadith de Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu wa arda. La spécificité c'est quoi? C'est qu'il est permis selon le texte du hadith de donner le dos à la Qibla quand on fait ses besoins dans des toilettes et dans une construction. Hein? Et le sujet est un sujet dans lequel il y a une divergence. Hein? Hadith al-Rabi' Hadith وهو الرابع عشر في كتاب الطهارة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. الراوي أنس بن مالك، مرت معنا ترجمته في الحديث الحادي عشر. موضوع الحديث بيان حكم الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط. شرح الكلمات، الخلاء المراد به هنا المكان الخالي الذي يقضي فيه حاجته في الفضاء بدليل حمل العنزة منه. غلام النحوي أي مقارب لي في السن، والغلام الذكر الصغير ويطلق على الكبير مجازا. والغلام المذكور هنا قيل أنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وقيل غيره. إداوة بكسر الهمزة إناء صغير من جلد. عنزة بفتح العين والنون حربة صغيرة. يستنجي بالماء، يطهر بالماء الذي في الإداوة ما أصاب السبيلين من أثر البول أو الغائط. الشرح الإجمالي، كان أنس بن مالك رضي الله عنه ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته يحمل هو وغلام معه إداوة فيها ماء وعنزة. فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء الذي في الإداوة، وأما العنزة فيحملها أنس ليركزها أمام النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة لتكون سترة له، وربما استعملها في حاجة أخرى. Et donc, le sens général de ce hadith, le quatrième hadith dans le chapitre et le quatorzième hadith dans le livre de la purification, Anas ibn Malik rapporte que lorsque le prophète alayhi salam allait effectuer ses besoins, et il sortait dehors, ses besoins, j'emportais accompagné d'un garçon de mon âge un récipient de cuivre rempli d'eau et une petite lance. Le prophète utilisait l'eau pour se laver les parties intimes après ses besoins. Il a été dit que le garçon qui accompagnait Anas ibn Malik, c'est Abdullah ibn Mas'ud, comme il a été dit que c'est un autre garçon. Et le sujet du hadith, le hadith nous montre le statut de ceux laver les parties intimes par l'eau du, hein, après l'urine et après les excréments. Anas ibn Malik, le sens du hadith, Anas ibn Malik était au service du prophète alayhi salam, et quand le prophète alayhi salam sortait pour aller effectuer ses besoins naturels, Anas et un garçon de son âge portaient un récipient en cuir plein d'eau, une petite lance. Le messager se lavait avec l'eau du récipient. Quant à la lance, Anas la plantait devant le prophète alayhi salatu wassalam au moment où il prie. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, même en dehors, où il n'y a personne, il mettait une sutra. Hein? Le prophète, au moment où il prie, hein, donc, la prenait comme sutra. Et peut-être qu'il l'utilisait aussi pour autre chose que la prière. فوائد الحديث فضيلة أنس بن مالك بخدمته النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا جواز الاستعانة بالغير في وسائل الطهارة. ثالثا جواز الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط. رابعا الاستعداد للطهور وغيره بتهيئة ما يلزم لذلك. Donc les leçons à retenir du hadith, les mérites d'Anas en étant au service du prophète alayhi salatu wassalam. La deuxième leçon, la permission de céder par autrui pour les moyens de purification. La troisième leçon, la permission de se nettoyer de l'urine et des excréments avec l'eau. La quatrième, se préparer pour la purification en préparant le nécessaire pour cela. Hadith al-Khamis fi al-bab, al-Khamis ashar fi al-kitab. An Abi Qatadata al-Harith ibn Rib'i al-Ansari radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. الحديث متفق عليه. راوي الحديث أبو قتادة الحارث بن ربع الأنصار الخزرجي رضي الله عنه، شهد غزوة أحد وما بعدها، كان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حين مال على راحلته من النوم، فلما استيقظ قال له عليه الصلاة والسلام حفظك الله بما حفظت نبيه صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 54 في المدينة رضي الله عنه وارضاه. وموضوع الحديث بيان بعض الآداب الإسلامية في قضاء الحاجة وغيره. Et donc le cinquième hadith dans le chapitre et le quinzième dans le livre de la purification, Abu Qatada, al-Harith ibn Rib'i al-Ansari, selon lui, le prophète a dit, lorsque l'un d'entre vous urine, qu'il ne tienne pas sa verge avec sa main droite et qu'il ne se lave pas les parties intimes avec sa main droite. Et lorsque l'un de vous boit qu'il ne respire pas dans le récipient dans lequel il boit. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Le transmetteur de ce hadith, c'est Abu Qatad al-Harith ibn Rib'i al-Ansar al-Khazraji radiyallahu anhu. Il a assisté à la bataille de Houd et les batailles qui l'ont suivi. On le surnomma le chevalier du messager d'Allah. Lors d'un voyage avec le prophète alayhi salam, il a soutenu le prophète alayhi salam pour qu'il ne tombe pas. Alors que le prophète alayhi salam, en s'endormant sur sa monture, il s'est penché d'un côté, lui il est venu le soutenir. Radiallahu anhu wa arda. Et quand le prophète s'est réveillé, il lui a dit qu'Allah te préserve comme tu as préservé son prophète. Il est mort, radiallahu anhu wa arda, en 54 de l'Hijra à Médine. Le sujet du hadith, certains comportements qu'il faut observer pendant les besoins naturels et autres. Fana'ti إلى شرح الكلمات يقول رحمه الله لا يمسكن لا يأخذن فلا ناهية والفعل بعدها مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وهو يبول جملة في موضع نصب على الحال من فاعل يمسك المعنى لا يأخذ ذكره بيده اليمنى حال بوله لا يتمسح لا يستنزي بحجر ولا ماء من الخلاء البول والغائط لا يتنفس لا يخرج النفس من جوفه في الإناء في الوعاء الذي يشرب فيه الشرح الإجمالي من كمال الشريعة الإسلامية أنها جاءت بمراعاة الآداب العالية في كل شيء وفي هذا الحديث يحدث أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إمساك الذكر باليمين حال البول وعن الاستنجاء بها من البول أو الغائط لأن ذلك ينافي تكريم اليمين وينهى كذلك صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء لأن ذلك يقذره على من بعده وربما يحمل نفسه أمراضا يتلوث بها الإناء أو يصطدم النفس الصاعد بالشراب النازل فيحصل الشرق ويتساقط اللعاب في الإناء وكل هذا مناف لكمال الآداب. Et donc le sens général de ce hadith, la législation musulmane est une législation qui est complète. Et c'est la cime de la noblesse du comportement. La cime de la noblesse du comportement est contenue dans cette législation. Dans ce hadith, Abu Qatada nous annonce que le prophète alayhi salam a interdit de tenir sa verge avec la main droite lors des besoins, quand on urine. Et il a interdit de laver les parties intimes avec la main droite. Car ceci est en contradiction avec les honneurs dus à la droite. Comme il a interdit, alayhi salam, de respirer dans le récipient dans lequel on boit, car ceci va le salir pour celui qui va le prendre après. Et peut-être il va y transmettre ses maladies. Ou alors l'inspiration qui s'effectue au moment d'avaler, quand ça va monter, se heurtera à l'eau qui descend et créera un étouffement, et cela va provoquer la bave qui va tomber dans le récipient, et tout cela est en contradiction avec le bon comportement. فوائد الحديث نهي البائل أولا نهي البائل أن يمسك ذكره بيمينه حال البول وهو نهي كراهة عند الجمهور ثانيا النهي عند عن الاستنجاء باليمين من البول أو الغائط سواء بالأحجار أم بالباء ثالثا فضل اليمين رابعا النهي عن التنفس في الإناء خامسا كمال الشريعة الإسلامية وشمول تعاليمها. Les leçons à retenir de ce hadith, La première leçon, l'interdiction de prendre sa partie intime avec la main droite au moment d'uriner. Et ce n'est pas une interdiction formelle chez une grande majorité d'hommes de science, c'est du domaine de ce qui est détestable à faire. Deuxième leçon, l'interdiction de se laver les parties intimes avec la main droite ou d'essuyer les parties intimes avec la main droite. Troisième leçon, les mérites de la main droite, les mérites de la droite en général. La quatrième leçon, l'interdiction de respirer dans le récipient. La cinquième, la législation musulmane est une législation qui est complète, qui est parfaite. Il en est de même de ses enseignements. Le hadith du sadis fi al-bab wa sadis achar fi kitab al-tahara an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qal marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi qabrayn فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقلنا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا رواه البخاري ومسلم. الراوي عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشم القرشي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمة أو قال علمه الكتاب ووضع له وضوءا عبد الله بن عباس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين فأدرك علما كثيرا رضي الله عنه وارضاه وكان حريصا على العلم قال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام ومات في الطائف سنة 68 رضي الله عنه وارضاه وموضوع الحديث بيان عقوبة النمام ومن لا يستتر من بوله. Et donc le sixième hadith dans le chapitre et le seizième dans le livre de la purification, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, rapporte que le prophète alayhi salatu salam passa près de deux tombes et il a dit: ces deux-là sont en train de subir le châtiment. Ils ne le sont pas pour une raison de quelque chose qui est pénible à éviter. Ou selon les gens, ce n'est pas une norme. L'un d'eux ne se préservait pas de son urine après avoir uriné. Quant à l'autre, il ne cessait de colporter des paroles, les paroles entre les gens, dont le but néfaste. Le messager a pris une palme de palmier fraîche et il l'a coupée en deux et il a planté une moitié sur chaque tombe. Les compagnons lui posent la question: pourquoi as-tu fait cela au messager d'Allah? Et il a dit alayhi salatu salam: espérant que ça allégera leur souffrance tant qu'ils ne sèchent pas. C'est-à-dire, tant que ces deux morceaux de palmier ne sèchent pas, il espérait, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, espérait que ça allaise leur souffrance. Le transmetteur du hadith, Abdullah ibn Abbas, ibn Abdul Muttalib, al-Hashimi, al-Qurashi, le neveu du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, le grand savant de cette communauté, il exégète du Coran par excellence, radiyallahu anhu wa arda. Le prophète l'a serré contre lui et il a dit: oh Allah, apprends-lui la science du livre. Oh Allah, apprends-lui la science du livre. Et quand un jour, Abdullah ibn Abbas posa de l'eau d'eau pour le prophète, alayhi salatu wa salam, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion. Abdullah ibn Abbas était veillant à la recherche de la science. Et il a eu beaucoup de science, radiyallahu anhu wa arda. Omar ibn al-Khattab disait de lui, hein, Omar ibn al-Khattab disait d'Abdullah ibn Abbas, c'est le jeune qui a dépassé ceux qui sont dans l'âge mûr. C'est-à-dire, il est déjà dépassé par sa science, par son intelligence, par sa compréhension, etc. Et il a dit de lui, celui qui a une langue qui pose des questions et un cœur qui mémorise. Tout ça, c'était les qualités que disait, comment le décrivait Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa arda. Quand le messager est mort, Abdullah ibn Abbas venait à peine d'être pubère, radiyallahu anhu wa arda. Et il est mort dans la ville de Taif, en l'an 68 de l'Hégire. Le sujet du hadith, le châtiment de celui qui ne se préserve pas de l'urine et du colportage. شرح الكلمات بقبرين تثنية قبر وهو مدفن الميت وكان في البقيع هو يبول جملة في موضع نصب على الحال من فاعل يمسك إنهما أي القبرين والمراد صاحبهما لا يعذبان لا يعاقبان واللام للتوكيد في كبير في شاق عليهما تركه وفي هنا للسببية لا يستتر لا يتوقع ولا يستبرئ من البول أل هنا للعهد الذهني أي من بوله كما في رواية أخرى يمشي بالنميمة يسعى بها بين الناس والنميمة نقل كلام الناس بعضهم في بعض للإفساد بينهم جريد عسيبا من النخل فشقها فرقها وفي رواية كسرها نصفين أي جعل كل شقة منها تعادل النصف فغرز فغرس أو ركز في كل قبر على كل قبر وذلك عند رأسه لما فعلت هذا؟ استفهام لمعرفة الحكمة من ذلك لعل هنا للترجي والهاء ضمير الشأن يخفف أي العذاب عنهما عن صاحبي القبر ما لم ييبس أي نصف الجريدة التي شقها نصفين وما مصدرية ظرفية والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترجى أن الله سبحانه وتعالى يخفف العذاب عن صاحبي القبرين إلى أن تيبس الجريدة الشرح الإجمالي مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين في البقيع فكشف له عن تعذيب من فيهما بسمع أصواتهما وعن سبب ذلك التعذيب وكان معه جمع من الصحابة رضي الله عنهم فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بذلك تحذيرا من أسباب العذاب وبين أن سبب تعذيبهما أمر لا يشق عليهما تركه لو شاء ذلك وإن كان كبيرا بالنسبة للعقوبة أما أحدهما فسبب تعذيبه أنه لا يعتني بالطهارة التي هي من شروط الصلاة فكان لا يستبرئ من بوله ولا يتنزه منه وأما الثاني فسبب تعذيبه التفريق بين المسلمين بالنميمة التي بها فساد المجتمع بإحداث العداوة والبغضاء بينهم ثم أخبر ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عسيب نخل رطب فشقه نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة عند رأسه وقال لعله يخفف عنهما العذاب إلى أن ييبسا Et donc le sens général du hadith, le messager d'Allah est passé à côté de deux tombes dans le cimetière de Baqi'a. Et Allah lui a fait entendre le châtiment de ceux qui y sont. Et aussi, il lui a fait savoir, subhanahu wa ta'ala, la cause de leur châtiment dans la tombe. Et il y avait avec le prophète un certain nombre de compagnons d'Allah alayhim. Et il leur a annoncé cela. Il leur a annoncé cela comme avertissement contre les causes du châtiment. Et il leur a montré que la cause de leur châtiment était quelque chose qu'ils pouvaient éviter s'ils le voulaient. Mais s'il était grand de par le châtiment, même s'il était grand de par le châtiment, ils pouvaient l'éviter. Parce que le châtiment qui en découle est énorme, le châtiment dans la tombe. L'un d'entre eux était châtié car il ne donnait pas d'importance à sa purification, qui est une des conditions de la prière. Il ne se préservait pas de l'urine. Il ne se préservait pas comme il se doit de l'urine. Quant au deuxième, la cause du châtiment, c'est qu'il divisait les musulmans en colportant ce qui est mauvais pour la société et qui crée la haine et la détestation entre eux, les gens. Il comportait pour créer la zizanie et pour créer la haine entre les gens et les séparer et créer des problèmes dans la société. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, a annoncé que le prophète a pris une palme fraîche, verte, d'un palmier, et il l'a coupée en deux, et il a planté un morceau sur chaque tombe au niveau de la tête, en espérant que ceci allégera leur souffrance tant que les deux morceaux sont verts ou sont frais. Fanati, إلى فوائد الحديث. أولا تبوت عذاب القبر وأن النميمة وعدم التنزه من البول من أسبابه. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى قد يكشفه للناس إظهارا لآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أو كرامة من كرامات الولي. ثالثا وجوب تنزه الإنسان من بوله وكذلك سائر الأبوال النجسة. رابعا أن النميمة وترك التنزه من البول من كبائر الذنوب. خامسا التنبيه على عظيم شأن الصلاة حيث كان الإخلال بشيء من شروطها سببا لعذاب القبر. خامسا سادسا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حتى العصاة منهم. سابعا أن الشفاعة قد تكون مؤقتة إلى حد معين لقوله صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. ثامنا حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحكمة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه ينبه الشيخ لا يسن لنا وضع جريدة على القبور لأننا لا نعلم أن صاحب القبر يعذب فوضع الجريدة على قبره إساءة ظن به وتفاؤل عليه بالعذاب. Et donc les leçons à retenir du hadith, comme dit le cheikh rahmatullah alayh, la confirmation du châtiment de la tombe. Le colportage ainsi que le fait de ne pas se préserver de l'urine, on sent une cause, on sent la cause du châtiment, de la tombe. Ils sont l'une des causes. Deuxièmement, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dévoile le châtiment de la tombe pour l'un de ses hommes, pour l'un des humains, pour faire apparaître l'un des signes parmi les signes du prophète alayhi salatu wassalam, ou pour honorer un de ses alliés par quelque chose de surnaturel qui prouvera la prophétie du messager alayhi salam. Troisième leçon, l'obligation pour l'être humain de se préserver de son urine et de toutes les urines impures. La quatrième leçon, le colportage et le fait de ne pas se préserver de l'urine est un péché capital. parce qu'il en découle le châtiment dans la tombe. Il en découle le châtiment. Hein? La cinquième leçon, c'est que le hadith attire l'attention sur l'importance de la prière, car la négligence de l'une de ces conditions est la cause du châtiment de la tombe. Ici, en l'occurrence, la négligence de fait de bien se purifier, de se préserver de l'urine. Hein? La sixième leçon, la compensation du prophète alayhi salam, la compassion qu'avait le prophète alayhi salam pour les pécheurs et ceux qui commettaient des péchés dans sa communauté alayhi salam. La septième leçon, l'intercession peut être limitée par le temps, peut être limitée pour un temps précis, pour la parole du prophète alayhi salam qui a dit, espérons qu'il allégera leur souffrance tant que ils ne sont pas secs, tant que les deux branches n'ont pas séché. La huitième leçon, comment les compagnons veillaient à connaître la sagesse et les buts de l'acte du messager alayhi salam, des actes du messager alayhi salam. Une remarque importante sur laquelle attire notre attention Cheikh Al-Uthaymeen rahmatoullah alayh, il dit, ce n'est pas une sunna pour nous de poser une palme de palmier sur les tombes, car on ne sait pas si celui qui est enterré dans la tombe se fait châtier ou pas. En plus de ça, poser une palme sur sa tombe, c'est une mauvaise suspicion sur celui qui est enterré. Hein? C'est prétendre qu'il est en train d'être châtié. Comment le savoir qu'il est en train d'être châtié alors que c'est quelque chose qui fait partie de l'invisible, qu'on ne peut savoir, hein, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous le fait savoir. Et là, les compagnons, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui leur a fait savoir. Une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait entendre le châtiment qu'il subit. Donc, c'est la fin de ce chapitre. Ce chapitre nous clarifie sur l'aspect complet de cette religion qu'Allah a agréé pour nous. Et que cela nous montre que nous n'avons pas besoin ni de l'Occident, ni de l'Orient. Il nous suffit tout simplement de se soumettre et de se comprendre à l'héritage que nous a légué Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel étaient les nobles compagnons, ridwanullah alayhim. Tout bien, tout le bien, tout le succès, dans ce bas monde, dans le delà, il est dans le fait d'être attaché à cette religion, comme ils étaient attachés, les nobles compagnons, à celle-ci. Hein? Les succès dans ce bas monde et la réussite dans ce bas monde découlent de cela. Hein? Imagine un petit peu l'importance de la clarification, hein, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné à la bienséance au moment de faire ses besoins. Ça veut dire que rien n'est omis dans cette religion. Que ce soit au niveau politique, ou au niveau social, ou au niveau de l'économie, ou au niveau, à tous les niveaux. On a besoin de personne. Seulement, il faut se rendre à l'évidence et revenir vers la religion d'Allah et vers la sunna de ce messager alayhi salatu wassalam et vers son livre et sa sunna et la sunna du messager alayhi salatu wassalam selon la voie et la compréhension de nos plus prédisseurs d'Allah alayhim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu subhanahu wa ta'ala, an yufaqihna wa iyaakum fi dinih, unjanna wa iyaakum minna alladina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana, inna huwa liyu dhalika wa al-qadiru alayhi wa sallahu subhanahu wa ta'ala, nukhrijana wa iyaakum min hadhihi al-bilad al-kafir ahluha, wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in, barakallahu fiikum wa ahsallahu alaykum, jazakum Allahu khairan.